Bonsoir, vous écoutez Forum, l'actualité. Ce soir, c'est le verdict de culpabilité de tous les hommes accusés dans le procès des viols de Mazan, l'ex-mari de Gisèle Pélicot qu'il avait drogué, violé et fait violer par une cinquantaine d'hommes, écope de 20 ans de prison. Alors ce procès change-t-il les rapports entre hommes et femmes? On va en débattre avec nos invités.
Construire des centrales solaires, éoliennes ou hydroélectriques doit aller plus vite. Le Conseil des États veut accélérer les procédures pour les infrastructures d'importance nationale en restreignant le droit de recours. Les organisations environnementales sont vertes de rage.
Le Conseil national veut aider les personnes âgées ou handicapées à rester plus longtemps à domicile. Un forfait voit le jour, de quoi financer certains soins ou aides à domicile qui permettent de sauvegarder la dignité. Mais le montant et la dépense n'est pas du goût de tout le monde.
Et on se rendra en Syrie en fin d'émission pour prendre la mesure des exactions commises par l'ancien régime. La journaliste indépendante Garance Le Cain revient tout juste de Damas. Elle y a vu des choses vertigineuses, ce sont ses mots.
Et dans ce forum également, le démantèlement d'une centrale nucléaire suisse et des métaux lourds dans du chocolat.
Forum, c'est jusqu'à 19h sur RTS 1, RTS 2 et Play RTS. Bienvenue.
Forum, Thibaut Chalère, Coraline Pochard.
Et on commence ce forum avec un mot sur l'opération Cœur à Cœur qui se déroule en ce moment même sur nos ondes.
Oui, ce jeudi est placé sous le signe de la solidarité, une journée organisée par la chaîne du bonheur avec le soutien de la SSR en faveur des enfants et des jeunes victimes de maltraitance. Vous pouvez adresser vos dons sur bonheur.ch ou coeurrts.ch ou en appelant le 0800 87 07 07.
18h02, direction Genève tout de suite, où l'enquête progresse sur les deux colis piégés.
Les deux explosions sur un paillasson et dans une boîte aux lettres avaient ciblé en août et en novembre dernier deux employés de la manufacture horlogère Patek Philippe chez eux, à leur domicile. Et on vient de l'apprendre, selon la Tribune de Genève et le 20 minutes, la police a procédé à des arrestations, Charlotte Frossard.
Oui, elle a arrêté deux suspects. La police cantonale genevoise a interpellé un homme hier à Genève. La police fédérale a fait de même en Valais. Selon nos confrères, le premier est actuellement incarcéré dans le canton de Fribourg et l'autre à Sion. Des informations qui nous ont été confirmées cet après-midi. Les deux suspects auraient été mis en prévention pour tentative de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui, tentative d'extorsion et de chantage et enfin usage d'explosifs.
Mais est-ce qu'on en sait plus sur le profil?
Il s'agit de deux frères, l'un âgé de 28 ans et l'autre de 32 ans. Le premier serait inconnu de la justice, tandis que le second a un casier judiciaire pour des faits remontant à l'époque où il était mineur. À notre connaissance, les deux frères n'ont pas de lien avec l'entreprise Patek Philippe, mais selon nos informations, tous deux ont travaillé ponctuellement dans le milieu horloger. Nous avons pu parler avec l'avocat d'un des frères, maître Vincent Spira. Il se dit très surpris de la mise en prévention de son client, lequel le conteste d'ailleurs vivement l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Et on s'en souvient, Charlotte, ces deux colis piégés avaient créé l'émoi à Genève.
Oui, et pour cause, les dispositifs explosifs avaient été placés sur le paillasson d'un appartement et dans une boîte aux lettres, blessant grièvement un père de famille et une jeune fille de 12 ans. Les deux personnes ciblées par ces bombes travaillaient dans l'entreprise Patek Philippe, laquelle avait alors appelé ses employés à la prudence. Contacté, le ministère public de la Confédération n'a pas souhaité commenter ces deux arrestations. Il rappelle qu'il en va du bon déroulement de l'enquête et puis il appelle également à la prudence. Les deux prévenus bénéficient en effet de la présomption d'innocence.
Charlotte Frossard, merci. Et tous coupables, c'est le verdict des viols de Mazan. Après 4 mois de procès, la cour criminelle du Vaucluse à Avignon a condamné ce matin Dominique Pélicot à la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle et déclaré coupable l'ensemble de ses 50 co-accusés.
Dominique Pélicot, qui on le rappelle a durant une décennie drogué aux anxiolytiques sa désormais ex-épouse Gisèle pour la violer, en faire son objet sexuel, la livrer à des dizaines d'hommes recrutés sur Internet. Cette affaire a mis sur le devant de la scène la soumission chimique et a suscité une attention planétaire. Bonsoir Benjamin Louis.
Bonsoir Thibault, bonsoir Coraline, bonsoir à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial à Avignon. Un mot d'abord sur la victime, celle qui est devenue le nom et le visage de cette affaire, Gisèle Pélicot.
Oui, Gisèle Pellicot, qui est arrivée une dernière fois au tribunal ce matin sous les acclamations, les bravos du public et même entourée par des dizaines de caméras et de micros, elle a eu un regard et un merci pour quasiment chaque personne qui lui criait bravo, un regard pour chaque pancarte de soutien, et il y en avait beaucoup. Et puis cette attitude stoïque durant l'ensemble de l'audience, quand son ex-mari, le principal accusé Dominique Pellicot, lui s'est effondré au prononcé de sa peine, la peine maximale donc de 20 ans de réclusion criminelle, vous l'avez dit. Son avocate à Dominique Pellicot, et c'est une surprise, a par ailleurs annoncé qu'il n'excluait pas de faire appel de sa peine, alors qu'il avait affirmé jusque-là qu'il accepterait quoi qu'il arrive.
Benjamin, on parle là d'un procès hors norme qui a donc pris fin ce matin dans une ambiance particulièrement tendue.
Oui, parce que les peines des 50 co-accusés aux côtés de Dominique Pellicot, allant de 3 ans de prison avec 2 ans de sursis à 15 ans de prison, sont globalement inférieures à celles qui avaient été requises par le ministère public. Il faut aussi noter que les 51 peines qui ont été prononcées sans motivation, égrenées par le juge Roger Arata en l'espace d'une heure, ce qui a donné en fait l'impression à mes confrères de la presse judiciaire qui ont suivi assidûment ces débats depuis le mois de septembre, que ce procès s'est conclu de manière particulièrement abrupte.
Benjamin, vous avez vécu cette matinée dehors avec le public, devant le tribunal d'Avignon. Comment le verdict a-t-il été accueilli par la foule ?
Alors, par le public, mal, entre déception et grand colère. Écoutez.
On veut la justice ! On veut la justice ! On veut la justice !
Ce sont des violeurs, des criminels, ce sont là des délits.
On veut la justice !
Ils doivent être jugés pour leurs crimes.
Honte à la justice. On a aussi entendu justice complice. Ça, c'est devant l'entrée du tribunal, sur le trottoir, juste après que l'ensemble des peines aient été prononcées et connues. Les très nombreuses femmes venues en solidarité avec Gisèle Pellicot ont laissé vraiment éclater leur colère, voire pour certaines leur rage, au point même que la police a dû intervenir. Les effectifs de CRS ont été renforcés un peu au dernier moment, lorsque certains des accusés, 6 au total, qui ont écopé de sursis, sont repartis libres du tribunal, mais sous les insultes de centaines de personnes. On a littéralement frôlé le lynchage. Les avocats de ces accusés, eux aussi, ont été pris à partie par la foule. Et puis à l'inverse, toujours sur le même trottoir, certains membres des familles des hommes condamnés, eux, s'en sont pris assez violemment à des journalistes. Mais la fin de matinée n'a pas été que violente. La colère a finalement laissé la place à l'émotion, aux applaudissements nourris lorsque Gisèle Pellicot est enfin sortie du tribunal. Gisèle Pellicot, qui a, devant les journalistes venus du monde entier, déclaré « J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. » Et puis enfin, elle a terminé en ajoutant qu'elle pensait aux victimes non reconnues de violences sexuelles.
Benjamin Louis, merci. Vous étiez en direct d'Avignon.
Et deux avocates sont avec nous pour réagir à ce verdict. Clara Schnevely, membre du collectif de défense spécialisé dans la défense des victimes de violences sexuelles, et Yaël Hayat, avocate pénaliste à Genève. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Clara Schnevely, commençons peut-être par ce verdict. Tous coupable, c'est cela qu'a dit aujourd'hui la Cour criminelle. Elle a voulu faire un exemple autour de la question du consentement.
Alors, je ne sais pas si elle a voulu faire un exemple autour de la question du consentement. Aujourd'hui, on a une décision judiciaire qui a été rendue. C'est un verdict de culpabilité pour tous les auteurs qui étaient présumés avant ce verdict des actes pour lesquels ils ont été mis en accusation. C'est ça aujourd'hui qu'il faut retenir, c'est que c'est un verdict de culpabilité pour toutes les personnes qui ont reconnu les actes affreux qu'ils ont commis à l'encontre de Gisèle Pellicot. La question, elle peut plutôt se poser autour des peines, justement, qui ont été décidées par le tribunal. Alors aujourd'hui, on n'a pas la motivation. Donc la juriste que je suis, l'avocate que je suis, peut difficilement se positionner sur le raisonnement juridique qui a amené à ces peines qui sont beaucoup plus basses que ce qui avait été requis. Et puis c'est vrai que voilà, la lourdeur de la peine qui est décidée, elle nous dit quand même quelque chose de ce que la justice décide de la, du seuil de gravité d'un acte. Et aujourd'hui, moi, c'est ça la lecture que je fais aujourd'hui. C'est voilà, des peines qui sont basses, très basses pour certains de ces hommes. Et c'est ça que je questionne aujourd'hui.
Mais déjà sur la culpabilité, Yael Ayat, tous coupables, c'est exagéré pardon, ou justifié selon vous ?
Je crois qu'il nous est impossible de répondre à cette question puisque nous ne sommes pas intervenus dans ce dossier en tant qu'avocate. Donc je sais que nombre de personnes contestaient avoir une réalisé en fait un comportement de violeur dans ce cas. Ils n'ont pas été entendus. En revanche, les juges sont parvenus à rendre sur le registre de la peine des peines qui sont nuancées. Ils ont individualisé les peines, ce qui est, on va dire, la moindre des choses. Mais avec ce qu'on vient d'entendre sur cette hystérie collective et cette colère que ces verdicts suscitent, j'ai envie de saluer en tout cas les juges qui sont parvenus à être dans la nuance par rapport aux réquisitoires qui ont été prononcés.
On parle d'individualisation des peines. C'est cela qui est important à retenir pour vous aujourd'hui ?
Écoutez, c'est un principe pénal en fait. Hein. On rend pas des peines, on va dire, en vrac. Chaque personne dans cette affaire, évidemment, chaque personne a son histoire, a son vécu vis-à-vis de Madame Bellico. Il y a ce qu'elle a su, ce qu'elle aurait dû savoir. Il y a aussi ses antécédents. Il y a le nombre de fois qu'elle est intervenue. Donc, à l'évidence, il fallait garder la nuance. Et moi, ce que je constate et ce qui vraiment pour moi sème l'effroi, c'est cette colère, on va dire, ce lynchage des personnes qui ont été condamnées. C'est aussi ce que j'ai lu dans des journaux, leurs noms qui ont été livrés à la presse. Donc c'est extrêmement grave, avec vraiment cette volonté d'avoir qu'ils soient dans la honte et qu'ils n'aient jamais le droit à l'oubli, eux et leur famille. Il y a quelque chose ici de gravissime qui se joue, et moi c'est ce que je retiens en l'état de ce verdict de ce matin.
Clara Schneuvelli, il y a en quelque sorte deux condamnations, hein, celle publique que vient de décrire Yael Ayat, en plus de celle qui vient de tomber par la cour criminelle. Est-ce que c'est trop ? C'est une question.
Non, moi je pense que justement cette colère qu'on entend, il faut la questionner. Pourquoi il y a cette colère aujourd'hui qui sort ? C'est aussi parce qu'il y a un ras-le-bol et ce procès il nous a quand même démontré que les violences sexuelles, elles font partie intégrante de notre société. Ce procès le rappelle. Le viol aujourd'hui, c'est plus un phénomène en marge de la société, et cette colère-là, pour moi, elle fait partie en fait de ce ras-le-bol. Et au lieu de la condamner, je pense qu'il faut la questionner. Il faut qu'on se questionne nous-mêmes sur cette colère.
Est-ce que ça questionne quelque part la justice et son fonctionnement, Clara Schneuvelli ?
Alors, je pense le fonctionnement de la justice, peut-être pas. Peut-être ce qui peut se questionner, c'est ce qui s'est passé pendant le procès et ce que ça a comme impact sur la victime. Bien sûr, je parle de mon positionnement comme avocate de personnes qui accompagnent des victimes de violences sexuelles à travers la procédure pénale. Moi, je pense que le traitement des personnes victimes dans le cadre de la procédure pénale, il peut encore être amélioré pour éviter des victimisations secondaires. C'est ça aujourd'hui, moi, l'amélioration qu'il faut. Et on a vu pendant ce procès-là qu'il y avait des débordements de la part de la défense qui étaient, à mon avis, non nécessaires pour un procès équitable et une défense acceptable.
Il y a l'affaire de Gisèle Pellico, un exemple, comme certaines femmes le font, certaines manifestantes devant la cour criminelle aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut tirer des leçons ?
D'abord, j'aimerais juste réagir à ce que je viens d'entendre sur la défense, parce qu'il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé où on a l'impression que la défense a été fustigée tout au long de ces semaines. Je ne sais pas ce qu'on entend par débordement, mais la défense a été vécue comme une offense, et ça, c'est totalement inadmissible. Ça n'est pas parce que Madame Pellico a décidé de rendre public, et ça, c'est son choix, et c'est quand même le principe, c'est la publicité des débats, donc il n'y a rien à dire là-dessus, qu'on doit pour autant ne pas entendre la défense, ne pas faire place à la défense, et ça, c'est le respect du procès équitable, et je pense qu'ici, on doit questionner le procès équitable. Maintenant,
mais sur le symbole que certaines font de ce procès aujourd'hui, est-ce que Gisèle Pellico est une héroïne ?
Mais écoutez, j'espère pas. J'espère vraiment pas qu'elle est une héroïne, parce que les héroïnes, c'est, on a envie de leur ressembler. Et j'espère pas du tout que demain les femmes seront des Madame Pellicot, de même que je n'espère pas que les hommes sont des Monsieur Pellicot. Je pense pas un seul instant que les chambres conjugales doivent ressembler au couple Pellicot. Je pense que cette affaire est hors norme. Et moi, ce que je regrette par-dessus tout dans cette affaire, c'est que cette histoire individuelle de Madame Pellicot soit une histoire collective. D'aucune façon, l'histoire de Madame Pellicot doit être une histoire collective. Elle est extraordinaire. Et en fait, je trouve regrettable qu'on essaye de tirer, de recycler cette souffrance pour en fait insuffler une sorte de défiance dans les rapports entre les hommes et les femmes. Les hommes ne sont pas des monsieur Pellicot en devenir. Si on continue à mettre les hommes et les femmes dos à dos, on risque véritablement de compromettre toute réconciliation et de compromettre véritablement toute relation. Et c'est ce que veut ce mouvement.
Clara
ce mouvement
Schneuvely.
Considère que, je finis juste, ce mouvement considère que un homme sur deux est un violeur. Et c'est quelque chose qui est très grave dans le propos. Ce mouvement considère que les têtes doivent tomber. Donc, il faut que cette histoire reste une histoire exceptionnelle. Encore une fois, c'est une histoire exceptionnelle à plus d'un titre, sur le nombre, sur la durée, sur les actes. Et je pense que cette histoire doit véritablement être une histoire. C'est l'histoire de Madame Pellicot, c'est pas l'histoire des femmes.
Clara Schneuvely, oui. Sur cette histoire extraordinaire, oui. Gisèle Pellicot érigée comme une héroïne dans ce procès, c'était une erreur.
La définition qu'on donne de héroïne, c'est une femme qui se dévoue à une cause. Et je pense qu'effectivement, Madame Pellicot, dans le cadre de ce procès, elle a choisi de prendre la parole et de défendre une cause. Et moi, celle que j'écoute à nouveau, ce sont les victimes. Et moi, j'ai entendu des personnes victimes qui ont dit que les paroles de Madame Pellicot, que la posture de Madame Pellicot leur avait fait du bien, que c'était un message qui leur avait fait du bien. Alors oui, je partage un avis avec Maître Hayat, c'est que c'est un procès extraordinaire de par son ampleur. Maintenant, il y a plein d'éléments du procès Mazan qui ne sont pas extraordinaires. Ce procès, il nous rappelle que les violences sexuelles, elles ont souvent lieu dans la sphère familiale. Ce n'est pas un point exceptionnel. Les violences sexuelles, ce procès met aussi à mal l'image du bon père de famille, qui aujourd'hui reste un mythe, qu'il faut aujourd'hui aussi déconstruire.
Mais on en a
et sur
fait
ce
un procès
point-là, c'est
contre
pas
la
un élément extraordinaire.
De générale,
mais c'est ça qui est terrible.
Pardon ?
On en a fait un procès contre la masculinité de manière générale.
Alors, pour moi, c'est pas le procès contre la masculinité, c'est un procès qui interroge la masculinité, et pour moi, ça peut pas être vu d'un point de vue négatif. C'est pas un procès qui va changer, on va pas avoir la société qui va fondamentalement changer après le procès Mazan, mais c'est un procès qui a pu poser des questions qui doivent aujourd'hui être posées.
Non, moi je crois pas du tout qu'on était dans l'interrogation, vraiment pas. Il y a qu'à lire les slogans devant, j'ai presque envie de dire, le théâtre d'Avignon, parce que très franchement, il y a un moment donné où cette sorte de victim pride pose vraiment, alors pour le coup, pose question. Et je crois que franchement, et c'est le plus grand problème en fait des mouvements auxquels on assiste, c'est cette façon de tout, de ce continuum, de tout mélanger, ces violences, entre guillemets, violence sexuelle. On est en train de faire de ce cas des cas. Et c'est ça le plus grand des dangers. Ce qui s'est passé est quelque chose qui est en marge de l'ordinaire. Et je pense que ni vous ni moi ne vivrons dans notre histoire, et ni même ni les défenseurs qui ont l'habitude de ces affaires-là, ne vivrons une affaire d'une femme face à 50 accusés pendant des années sous soumission chimique.
Très bien.
Cette affaire est extraordinaire et c'est très dangereux de la rendre ordinaire. C'est le plus grand danger. Et vous ne rendez pas service, ni aux femmes, ni aux hommes, d'en faire quelque chose d'ordinaire.
On s'arrêtera là. Je ne partage évidemment pas votre avis.
Yael Hayat, avocate pénaliste à Genève. Clara Schneuvely, membre du collectif de défense avocate également, spécialisée dans la défense des victimes de violences sexuelles. Merci à toutes les deux d'être venues parler de ce verdict. 20 ans de réclusion criminelle pour Dominique Pellicot. Les autres 50 co-accusés sont également déclarés coupables. Bonne soirée.
Bonne soirée, merci.
Habemus, budget. Après 3 semaines d'intenses débats, le Parlement a finalement bouclé aujourd'hui le budget 2025 de la Confédération.
Ouais, et grande gagnante, c'est l'armée qui en sort renforcée, tout comme l'agriculture, cela aux dépens de la coopération internationale. Mathieu Henderson, vous avez suivi ces débats, ce conclave donc, à l'heure du bilan, il faut souligner la victoire de la majorité bourgeoise.
Oui, le centre droit jubilait ce matin dans toute cette bataille autour du budget. L'objectif suprême avoué de l'UDC, mais aussi du PLR et du centre, était le respect du frein à l'endettement. Vous savez, cet instrument qui limite les dépenses publiques. Et c'est chose faite. Le mécanisme a résisté aux nombreuses passes d'armes ces dernières semaines, qui ont tout de même duré plusieurs dizaines d'heures. Quant à la répartition de l'argent, elle a aussi été marquée du saut bourgeois et fortement été influencée par le contexte géopolitique.
D'où la hausse du budget pour l'armée.
Oui, exactement. Face à la guerre en Ukraine ou la crise au Proche-Orient, le centre droit veut renforcer la sécurité intérieure de la Suisse. Cela se traduit par une augmentation progressive des dépenses militaires jusqu'à ce qu'elles atteignent 1% du PIB en 2032. Pour l'an prochain, le Parlement a décidé d'accorder 500 millions de francs supplémentaires à l'armée pour un budget total de 2,7 milliards. La coopération internationale en fait les frais.
Elle en fait les frais. Combien est-ce qu'elle perd exactement ?
110 millions de francs, c'était d'ailleurs l'un des principaux points de désaccord. Il aura fallu 3 allers-retours entre les chambres fédérales, suivis d'une conférence de conciliation pour parvenir à ce montant. La droite parle de compromis à la Suisse, ce qui fait bondir la gauche qui avait prévu d'accepter une hausse du budget militaire à condition que l'aide internationale ne subisse pas des coupes trop massives. Au PS, on se sent floué. Certains de ses membres m'ont dit qu'ils auraient bien envisagé un référendum, mais c'est impossible sur les questions budgétaires. Il a donc fallu se contenter de fustiger à la tribune la volonté de la droite de réarmer la Suisse au détriment de l'aide humanitaire.
Et c'est justement sur ce thème, la sécurité, que le fossé politique a été particulièrement visible.
Oui, car pour la gauche, la sécurité du pays passe justement par la coopération internationale. Les Verts ont cité ce matin l'exemple du Bürgenstock et la capacité de la Suisse à jouer le rôle de médiateur dans des conflits internationaux. De son côté, l'UDC estime que les coupes n'auront que peu d'impact, puisqu'elles représentent une part marginale du budget total de la coopération.
Quoi qu'il en soit, Mathieu, on va finir avec un peu de fierté. La Suisse tient son budget, ce qui n'est pas le cas de certains de ses voisins.
Oui, la France et l'Allemagne, effectivement. C'est aussi un aspect qui a été souligné par plusieurs élus à gauche comme à droite. Habemus budget, lancé le président du Conseil des États, le PLR, Andrea Caroni. D'autres sont plus dubitatifs, comme les Verts libéraux, qui estiment que ce budget est mal ficelé et n'offre rien de durable sur le long terme. En tout cas, tout le monde semble d'accord sur une chose, Thibault. La recherche d'économie ne fait que commencer. Rendez-vous donc l'an prochain lors des discussions autour du budget 2026.
Et ce sera avec vous, Mathieu Henderson. Vous étiez en direct de Berne. Merci. Dans quelques minutes, on parle du démantèlement d'une centrale nucléaire. C'est jamais banal, mais tout de suite, on parle d'ONG très déçues.
Et le Conseil des États veut exclure le droit de recours des organisations pour construire au plus vite les 16 projets hydroélectriques que le peuple a acceptés l'été dernier. Au nom de la loi sur l'électricité, une majorité de la Chambre a choisi de mettre fin aux oppositions des organisations. Le droit de recours des personnes privées reste maintenu. Bonsoir, Raphaël Hayé.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de BirdLife Suisse. 16 projets hydroélectriques dont il était question dans la loi sur l'électricité que le peuple a acceptée l'été dernier. Ils sont considérés d'importance nationale. C'est justifié qu'on aille vite sur ces constructions à partir de là, non ?
C'est justifié qu'on aille vite dans une bonne planification de ces projets, tout à fait. BirdLife et la grande majorité de toutes les organisations environnementales soutiennent une bonne planification de ces projets. Par contre, ne plus avoir le droit de recours, ça, c'est une attaque directe à notre état de droit, et ça, c'est une grande erreur. Et ce n'est pas la seule dans ce projet de loi.
Le droit de recours des privés reste, par contre. Est-ce que c'est pas suffisant ?
Pas du tout, parce que l'important avec le droit de recours, c'est qu'il permette à une cour de vérifier si un tel projet respecte bien les lois suisses, les lois décidées de façon démocratique en Suisse. Donc, si on n'a plus cette possibilité, aucune cour ne pourra plus vérifier ces projets, voir si elles respectent effectivement notre loi. Et en plus, vous avez mentionné la votation populaire du 9 juin. Le Conseil fédéral, dans ses informations officielles, il avait souligné justement que le droit de recours, il restera en vigueur aussi pour ces projets. Donc une promesse faite au peuple suisse, 6 mois après, elle ne vaut plus rien. Ça, c'est très très dommage et c'est critique pour notre démocratie, c'est inacceptable.
Ouais, mais Raphaël Hayé, la politique, c'est une affaire d'équilibre. On voit bien aussi qu'il y a un intérêt dans notre pays à produire des énergies renouvelables. Est-ce que dans certains cas, l'enjeu le jeu ne vaut pas la chandelle? Est-ce qu'il ne faut pas aller vite pour certains projets pour produire de l'énergie renouvelable qui protège aussi la nature d'une certaine manière?
Tout à fait. Accélérer les procédures, c'est ce que les organisations de conservation de la nature, y compris BirdLife, veulent aussi faire. Et avec la loi, comme elle avait été proposée par le Conseil national et le Conseil fédéral, on aurait eu un bon instrument pour aller de l'avant. Par contre, ce qu'on fait maintenant, c'est pas une accélération des procédures, c'est en fait une casse des bonnes procédures et de la bonne planification.
Ça veut dire que si votre droit de recours n'existe plus, le dossier va encore retourner au Conseil national, vous allez vous y opposer comment? Par référendum?
Pour le moment, moi, je ne peux pas imaginer que le Parlement suisse décide effectivement une loi qui est aussi mauvaise et aussi inacceptable que celle-là. Il n'y a pas que la question du droit de recours, il y a encore plein d'autres questions, notamment aussi les mesures de compensation écologique qui sont mises en cause par la nouvelle loi.
Merci beaucoup, Raphaël Hayé, d'être venu quelques instants dans ce forum. Vous êtes le directeur de BirdLife Suisse. On vous souhaite une excellente soirée. Et puis on suivra ces débats du côté du Conseil national pour voir ce qu'il adviendra de votre droit de recours. Bonne soirée.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Bonne soirée.
Mais tout de suite, on va sur la route. Il y a quelques informations routières importantes.
Infotrafic RTS.
Et de fortes chutes de neige rendent les conditions de circulation difficiles en altitude. Sur l'autoroute Vevey-Martigny, un accident provoque un important bouchon entre Lutry et Montreux en direction du Valais. Le temps de parcours est rallongé d'une heure et demie environ. En conséquence, eh bien, des colonnes s'étendent sur le toboggan de la 12 à l'approche de l'échangeur de la Verre. Et sur l'axe Lausanne-Genève, un nouvel accident s'est produit et ralentit fortement le trafic entre l'échangeur d'Écublanc et Morges-Est en direction de Genève.
Et on aborde maintenant dans ce forum à 18h26 un démantèlement, celui de la centrale nucléaire de Mühleberg. Ça fait 5 ans maintenant que BKV a tiré la prise de cette fameuse centrale. Les travaux ont commencé fin 2019 et devraient s'achever en 2031. À ce stade, tous les combustibles et déchets ont été sortis du site, mais il reste encore beaucoup de matériel radioactif sur place, dont le réacteur. Bonsoir, Patrick Miazza.
Bonsoir.
Vous êtes l'ancien directeur de Mühleberg, aujourd'hui membre de la direction du projet de démantèlement. Là, on est environ, on va le dire, à mi-parcours. Jamais une centrale nucléaire n'avait été démantelée avant Mühleberg. Quel bilan vous faites à mi-parcours de ce démantèlement, justement?
Il faut toujours rester modeste, mais le bilan est plutôt bon. On est légèrement en avance sur l'échéancier. Et la clé du succès, c'est clairement d'avoir... que la décision ait été prise avec 6 ans d'avance, ce qui nous a permis de faire non seulement une planification technique détaillée, mais ce qui nous a aussi permis de prendre en compte toutes les questions du personnel et surtout de trouver et de préparer à chacun un job pour le projet de démantèlement.
Patrick Miazza, on se demande, hein, vu de l'extérieur, s'il y a eu des surprises dans une centrale nucléaire qui inquiète parfois la population. Est-ce qu'il y en a eu?
Pour l'instant, pas, non. Et ça, c'est clairement dû à cette planification sur plus de 6 ans. On a arrêté la centrale il y a très exactement 5 ans. Et au tout début janvier 2020, donc après la pause de Noël et de Nouvel An, on a immédiatement commencé à travailler. Et jusqu'à présent, quand on est bien préparé, en principe, ça se déroule bien.
On l'a dit, Patrick Miazza, il reste encore sur le site du matériel radioactif, notamment le réacteur, mais aussi tout ce qui l'entoure, hein, les tuyaux, l'enceinte de confinement. Est-ce que le site en lui-même pourra être totalement décontaminé?
Alors ça, c'est l'objectif, c'est l'objectif qui est inscrit dans la loi, c'est le but du projet. On a l'obligation légale de décontaminer complètement et non seulement d'enlever toute la radioactivité, mais surtout de prouver à l'autorité de surveillance que plus aucune trace de radioactivité n'est dans les bâtiments de ce qu'on appelle la zone contrôlée. Et pour vous donner un ordre de grandeur, il va falloir faire des mesures d'environ 100 000 m² de surface pour pouvoir prouver ça à l'autorité de surveillance qui nous surveille de très très près.
Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? En 2031, le site sera propre? Vous pouvez nous le dire?
En matière de planification, on a l'habitude de rester, je répète, de rester modeste, il faut jamais trop promettre, mais pour l'instant, on travaille d'arrache-pied, on planifie, on a toujours des solutions de rechange et on travaille à la Suisse allemande comme des horlogers et ça se déroule pour l'instant, ça se déroule tout à fait correctement.
Ils sont où les déchets, Patrick Miazza? Les restes de la centrale radioactive?
Alors, c'est toujours le paradoxe quand on parle de nucléaire. Le nucléaire, par définition, il est extrêmement économe en ressources et en matériel. Donc, on a démonté aujourd'hui environ 6500 tonnes de matériel, surtout des composants, donc de la tuyauterie, des pompes, des gros objets comme ça, les turbines. Et plus du 90% du matériel a pu être recyclé, ça veut dire a pu être mesuré et renvoyé dans le recyclage conventionnel. En 2023, par exemple, on a un taux de recyclage de plus de 95%.
Mmh. Et le reste?
Et c'est ça tout le travail. Alors, le reste, il y a peut-être entre 50 et 100 tonnes qui ont été livrées à Zwillag, et c'est ce qui correspond aux déchets nucléaires, c'est ce qui correspond à ces résidus de matériel, au traitement de surface qu'on a été livré à Zwillag, qui se trouve à Würenlingen, près de Baden en Argovie.
Patrick Miazza, quand vous voyez aujourd'hui le retour du nucléaire dans les débats politiques, on parle de, même Albert Rösti l'a dit, mentionné un retour du nucléaire possible du côté de Mühleberg. Comment vous voyez ça, vous? On enlève tout, puis on remet une centrale, c'est possible, c'est envisageable, c'est une bonne idée, puisque c'est un site qui est accepté par la population, en tout cas les environs.
Alors, ce qui est certain, c'est que le site, il y a un consensus entre la commune, le canton et BKW pour que le potentiel énergétique du site soit réutilisé. On est connecté de manière optimale au réseau très haute tension, 380 000 volts, le réseau européen. Il y a une centrale hydraulique à proximité. Et donc, il y a un bon potentiel énergétique et tout le monde est d'accord là-dessus pour le retrouver. À moyen terme, on imagine éventuellement des sites de placer éventuellement des batteries, pour régulariser le réseau. Quoique la rentabilité doit être prouvée, elle est loin d'être prouvée en Suisse parce qu'on a les barrages. Quant au nucléaire, c'est un objet tout à fait différent. Pour l'instant, il n'y a aucun projet, il n'y a aucune planification technique. Parce qu'avant la technique, il faut un très grand consensus démocratique. Et comme vous le savez, il y a eu un débat féroce sur le nucléaire, il y a beaucoup position très polarisée. Donc, alors évidemment, il y a de la place pour ce qu'on appelle une centrale à bas carbone, qui peut être aussi une centrale à gaz avec du gaz vert, mais il n'y a aucun projet de centrale nucléaire à l'heure actuelle.
Merci beaucoup, Patrick Miazza, pour vos explications très claires. Ancien directeur de la centrale nucléaire de Mühleberg, aujourd'hui vous êtes à la tête des opérations de démantèlement. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
Et à 18h31, on reste dans la fibre énergétique.
Oui, avec l'éolien qui continue de semer la zizanie à Fribourg. Un nouveau vent de colère a soufflé ce matin dans les tribunes du Parlement cantonal. La faute à la publication récente d'un rapport qui pointe plusieurs manquements dans le travail de l'État. Mehdi Piquant, on vous retrouve à Fribourg. Ce nouveau rapport a encore mis de l'huile sur le feu sur les projets d'éoliennes du canton.
Le Conseil d'État a passé un sale quart d'heure ce matin, critiqué à nouveau pour sa gestion du dossier, avec cette question qui est revenue. Y a-t-il eu, oui ou non, conflit d'intérêts dans la planification éolienne du canton de Fribourg? Pour une dizaine de communes, soit la moitié concernée par de potentiels projets, c'est oui. C'est ce qu'elle martèle depuis 2021 maintenant, avec leurs différents relais du côté du Parlement. Aujourd'hui, elles estiment que ce nouveau rapport confirme leur thèse. On parle d'une étude menée par l'IDEAP, l'Institut des hautes études en administration publique à Lausanne.
Alors que dit-il ce rapport, Mehdi?
Alors il rend des conclusions sévères. Le canton n'a pas tout fait dans les règles de l'art. Ce qui est pointé du doigt, entre autres, c'est l'expert indépendant choisi par les autorités entre 2016 et 2017 pour identifier les lieux avec du potentiel. Le canton avait nommé la société Enova, qui avant de devenir un bureau d'ingénieurs était elle-même un développeur éolien qui avait mené ses propres travaux de prospection à Fribourg avant 2014. Là, le rapport de l'IDEAP note qu'il y a eu un enchevêtrement d'intérêts identifiables et que le canton aurait dû être beaucoup plus prudent, suffisant pour parler de conflit d'intérêts aux yeux de certains députés qui ont demandé ce matin de tout arrêter et de reprendre la planification éolienne à zéro.
Et que répond le Conseil d'État fribourgeois ?
eh bien, il fait une toute autre lecture de ce rapport de l'IDEAB qu'il avait lui-même commandé. Il reconnaît qu'il y a eu des manquements dans le processus et que si c'était à refaire, il ferait les choses différemment en adoptant beaucoup plus de prudence. Mais le gouvernement fribourgeois constate que, contrairement à ce que disent les opposants, le document parle de risque de conflit d'intérêts, mais pas à proprement parler de conflit d'intérêts. Le Conseil d'État rappelle également que sa planification éolienne a été validée en 2020 par la Confédération, signe qu'il ne s'agit pas d'un travail biaisé. Bref, dans ce guépier de l'éolien fribourgeois, les deux parties campent sur leur position.
Est-ce qu'il y a quand même une chance que le vent tourne un jour, puisqu'on parle d'éolienne en plus, Mehdi ?
Oui, alors malgré ces coups de sang ce matin au Parlement, une majorité de députés souhaitent maintenant regarder vers l'avant, de reprendre calmement les débats après 4 ans marqués par des polémiques. Pour tenter de regagner la confiance, le gouvernement mise sur un comité de pilotage nommé pour réexaminer le plan éolien du canton. Des mâts de mesure vont d'ailleurs être prochainement installés sur les 7 sites retenus jusqu'ici pour confirmer ou non leur potentiel. Pour autant, ce n'est pas demain qu'une éolienne verra le jour à Fribourg. Plusieurs votes consultatifs ont été organisés ces derniers mois dans plusieurs communes fribourgeoises impactées par ces possibles parcs éoliens. Et partout, c'est un non écrasant qui l'a emporté.
Mehdi Piquant à Fribourg, merci. Et cette question à présent, comment garder les seniors et les personnes en situation de handicap plus longtemps à la maison en leur versant un forfait pour les aider à se payer une aide au ménage, des repas à domicile ou encore un service de transport.
Et cette idée de forfait, c'est la réponse du Conseil national qui a accepté aujourd'hui le projet du Conseil fédéral qui vise donc à retarder l'entrée en EMS, notamment argument principal. Environ un tiers des résidents requièrent moins d'une heure de soins par jour en EMS. Le Conseil des États devra encore se prononcer. Alors, ce forfait, est-ce la recette qui permettra à de nombreuses personnes de vivre chez elles plus longtemps ? On en débat avec Valérie Piller-Carrard, conseillère nationale socialiste fribourgeoise, et Manfred Buller, conseiller national UDC. C'est Bernois, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Valérie Piller-Carrard, pourquoi ce forfait est-il une bonne idée et nécessaire selon vous ?
Une première étape majeure dans la prise en charge des personnes âgées. Et c'est vrai que ça suit l'évolution démographique. On le sait, la population est toujours plus vieillissante. On se rend compte, et comme vous l'avez dit en introduction, plus un tiers des personnes qui sont dans un EMS n'ont aujourd'hui besoin en fait que moins d'une heure de soins pour cette structure. Donc on voit qu'on a une marge assez importante de progression et ce soutien va permettre très concrètement aux personnes de pouvoir rester le plus longtemps possible à la maison. Et c'est souvent une demande qui vient aussi de ces personnes-là d'avoir des aides plus importantes pour rester le plus longtemps à la maison. Et je crois qu'aujourd'hui, on a franchi un pas qui est important et qui va dans la bonne direction.
On parle d'un forfait d'une 30aine de francs par jour. Manfred Buller, qu'est-ce que vous en pensez ? L'UDC s'est opposé aujourd'hui à ce projet. Pourquoi ?
Alors, nous avons des craintes par rapport aux charges importantes. On parle de plusieurs centaines de millions de francs d'ici 2030 par année pour les cantons essentiellement qui doivent payer ces prestations complémentaires. Et c'est un petit peu un danger qui nous paraît de reporter des frais ici sur les cantons de manière tout à fait massive. Et je pense que si on parle effectivement d'un montant de 30 francs par jour, ce n'est pas un tel montant qui, à mon avis, va être déterminant dans le fait de pouvoir rester à la maison ou pas. Pourquoi ? Parce que finalement, ce qui détermine de pouvoir rester à la maison, c'est fondamentalement l'état d'autonomie ou pas de la personne. Et si des prestations qui peuvent être données à la maison permettent de la garder à la maison, elles vont déjà être très largement, pour la plupart, prises en charge par le système tel qu'il se présente aujourd'hui. Donc on estime ici qu'on va clairement trop loin vers finalement un système qui risque aussi de donner des incitatifs et de faire monter les prix de certaines prestations. Il est aussi question de payer des adaptations des appartements privés dans des mesures qui sont pas du tout aujourd'hui vraiment chiffrées et ça peut vraiment très vite partir en dérapage financier.
Mais que fait-on de ce tiers de résidents dont parlait Valérie Piller-Carrard à l'instant, qui aujourd'hui n'a besoin que d'une heure de soins quotidiens en EMS et qui pourrait libérer des lits?
Alors, je pose la question dans le sens suivant. Si effectivement un tiers des personnes qui sont en EMS aujourd'hui ne devraient pas y être, est-ce qu'on est prêt, en regard de cela, en payant des prestations à la maison, à dire aux EMS, ben, vous fermez un tiers de vos lits, vous licenciez un tiers de votre personnel, puisque y aurait une surcapacité manifeste. J'ai les retours tout à fait contraires de toutes les personnes que je connais dans le domaine des EMS, que les listes d'attente sont très longues aujourd'hui, et que donc si on sortait, entre guillemets, un tiers des gens qui pourraient, en théorie, je n'y crois pas trop, mais admettons, sortir de l'EMS, ces lits seraient immédiatement occupés, donc on aurait une augmentation très importante des frais par ce nouveau système, et puis aucune diminution des frais en EMS, et ça évidemment, ça serait une charge encore plus grande.
Valérie Piller-Carrard, on entend l'argument de Manfred Buller, c'est beaucoup d'argent, et puis au fond, la somme qui arrive aux personnes bénéficiaires est trop faible pour permettre un maintien, donc c'est un mauvais projet, qu'est-ce que vous lui répondez ?
Peut-être ce qui est important de rappeler dans ce projet, c'est que ces aides et ces nouvelles prestations pour maintenir les gens à domicile seront versées uniquement aux personnes qui touchent des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Aujourd'hui, ces nouvelles aides n'en vont malheureusement pas pouvoir être touchées par l'ensemble de la population suisse. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les personnes qui aujourd'hui sont la plupart dans des EMS sont déjà touchent pour la plupart des prestations complémentaires. Donc on voit que si on arrive à maintenir et à sortir les personnes des EMS, et c'est vrai que c'est souvent une demande qui est faite, ça peut être des petits soutiens, notamment dans l'accompagnement, parce qu'on le voit aussi, beaucoup de personnes demandent à entrer en EMS pour des raisons diverses. Il peut y avoir des problèmes physiques, mais il y a aussi souvent une certaine solitude qui peut s'installer, le fait de se retrouver en EMS, on voit qu'elle retrouve un goût de vivre différent. Donc là, c'est vrai qu'il y a des mesures, notamment psychosociales, qui pourront être intégrées dans ces prestations. Typiquement, c'est pas seulement l'accompagnement chez le médecin, mais ça peut être un accompagnement, par exemple, pour maintenir une vie sociale active, peut-être juste pour aller voir son petit-fils à un spectacle. Enfin, ce genre d'éléments qui sont extrêmement importants, et on le voit, et de nombreuses organisations nous l'ont aussi rappelé, qui travaillent sur le terrain, il y a vraiment une nécessité d'agir dans ce domaine-là, parce que c'est des demandes qui sont très fortes.
On va faire réagir Manfred Buller, Valérie Piller-Carrard, sur ce mot dignité, la fin de vie en dignité, les dernières années à la maison, c'est mieux. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce que ça ne mérite pas une dépense de l'État ?
Bien sûr, mais la dépense de l'État, elle est déjà là, et je rappelle qu'énormément de structures dans beaucoup de communes, de villes, de même de villages de petite taille sont aujourd'hui mises en place, avec notamment des immeubles qui vont regrouper des appartements adaptés, par exemple aux personnes qui sont à mobilité réduite ou qui doivent être en chaise roulante à un moment donné, et que évidemment le loyer de ces appartements, qui peut parfois être plus cher, est aussi pris en compte dans les prestations complémentaires, avec un certain nombre de montants plafonds. Évidemment, on peut pas aller trop haut, parce que sinon ça devient effectivement impayable, et du coup on peut aussi retrouver des gens qui sont pas isolés, peut-être dans une maison individuelle ou un appartement où ils ont peut-être pas des gens qui sont là la journée, et ça permet de répondre, je crois, à ces besoins dans le cadre du système actuel. Évidemment, on peut en appeler là aussi un maximum de responsabilité individuelle de l'entourage. Là, on ne peut pas évidemment toujours que se reporter sur l'État.
Mais là, on parle d'un forfait de 30 francs par jour, un coup de pouce justement pour maintenir cette dignité dont nous parlons, ça semble quand même plutôt modeste, non, Manfred Buller ?
Alors, 30 francs par jour, ça fait pratiquement 1000 francs par mois. Donc, multiplié par 12 mois, multiplié par des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, on a des chiffres quand même qui donnent assez vite le tournis. Donc, bien sûr, dans l'absolu, ça serait formidable de pouvoir payer ce genre de choses. Je le comprends tout à fait. J'ai aussi, dans mon entourage, dans mon village, je suis maire d'une petite commune, des personnes dont on se dit, oui, ça serait formidable. Mais je crois qu'il faut pouvoir organiser des réseaux de solidarité. Nous avons aussi finalement les communes en tant que telles qui organisent des activités pour les aînés, parfois même avec des bénévoles qui se dévouent corps et âme pour leur donner accès à une vie sociale, sans qu'il faille organiser tout un système étatique qui coûtera 1000 francs par mois et par personne.
Eh bien, le débat sera repris au Conseil des États. Merci à tous les deux de l'avoir déjà mené dans ce forum. Valérie Piller-Carrard, conseillère nationale socialiste fribourgeoise. Manfred Buller, conseiller national UDC Bernois. Bonne soirée à tous les deux.
Merci, bonsoir.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée.
Forum, Thibault Chaler, Coraline Pochard.
18h43. Dans quelques minutes, nous reviendrons sur la conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine et nous irons en Syrie où la recherche des disparus victimes de la répression a commencé. Mais tout de suite, c'est de chocolat imprégné de métaux lourds dont on va parler.
Oui, et de l'affaire Linde Sprüngli ouverte il y a 2 ans aux États-Unis et qui vient de se terminer par un accord. Aujourd'hui, la justice a classé la plainte collective visant le chocolatier suisse selon les journaux de CH Media. Des consommateurs américains dénoncer la présence de métaux lourds dans certaines tablettes. Clap de fin donc dans cette véritable saga, Valentin Jourdil.
L'affaire remonte à décembre 2022. Une étude publiée par l'association américaine Consumer Reports jette alors un pavé dans la mare. Sur 28 tablettes de chocolat noir de diverses marques, plusieurs contiennent des niveaux inquiétants de plomb et de cadmium. Deux tablettes de la gamme Excellence de Lindt dépassent les seuils fixés par la Californie. 2 mois plus tard, des consommateurs de plusieurs États américains portent plainte. Leur principal argument, le manque d'avertissement sur les métaux lourds, sur les emballages. Et ceci alors que les normes californiennes impose d'y faire mention. Les plaignants estiment avoir été trompés car ils ont payé plus cher pour un produit censé être irréprochable. Les avocats du chocolatier zurichois soutiennent que les qualificatifs excellence et fabriqué avec nos meilleurs ingrédients ne sont que des expressions publicitaires à ne pas prendre au pied de la lettre et donc insuffisantes pour engager sa responsabilité. 2 ans après le début de l'affaire, les parties se sont donc mises d'accord devant un tribunal fédéral de New York. Fin de la procédure. Civil. Aucun détail sur leur arrangement n'est fourni et on ne sait donc pas si Lindt a dédommagé les consommateurs.
Alors voilà pour l'aspect juridique, mais d'où viennent ces métaux lourds dans le chocolat, Valentin ?
Les métaux lourds se trouvent naturellement dans le chocolat, surtout si les cacaoyers sont cultivés en Amérique centrale et en Amérique du Sud, des sols souvent volcaniques, riches en métaux lourds. Ainsi, plus le chocolat est dense en cacao, comme le chocolat noir, plus il est exposé à ces concentrations naturelles.
Et il y a des amoureux du chocolat qui nous écoutent. Si on mange de ce chocolat, il y a des risques?
Pas de panique à l'approche des fêtes, Thibault. En respectant une consommation modérée.
Respectez quand même.
Vous pouvez continuer à vous faire plaisir selon les experts consultés par la RTS. Concrètement, un adulte peut consommer jusqu'à une tablette de chocolat noir par jour pour le cadmium, jusqu'à 2 pour le plomb, et ce, sans risque notable. Mais il faut avouer que 2 plaques par jour, tous les jours, c'est une consommation extrême de chocolat.
Bon, je le prends pas personnellement. Merci beaucoup,
Valentin. Il ne faut pas.
Et à 18h46, on retrouve Jean-Marc Richard pour l'opération Cœur à Cœur.
Oui, journée exceptionnelle. Les 4 régions linguistiques de notre pays s'unissent autour de la lutte contre la maltraitance des enfants. On fait un point sur les dons avec vous, Jean-Marc.
Alors, on a les premiers chiffres qui arrivent parce qu'il faut savoir que chaque standard, évidemment, fait son propre calcul. Il faudra attendre quelques heures avant d'avoir les chiffres définitifs, mais on termine l'action demain, donc on a encore un peu le temps. Mais on est très proche des 2 millions, ce qui est remarquable, mais c'est pas suffisant. Évidemment, si pour Cœur à Cœur, on veut battre le record de l'année dernière, il faudra faire plus encore. Mais on est proche de ces 2 millions et ça a été une journée très émouvante. Je dois dire qu'au standard, chez nous, par exemple, les téléphones, c'était beaucoup des gens qui avaient aussi des vécus personnels, qui avaient des vécus de maltraitance par le passé. Il y avait beaucoup de gens en larmes, beaucoup de gens qui disaient, voilà, ce que nous, on n'a pas eu, on aimerait que ces enfants puissent l'avoir. D'autres gens qui disaient, on comprend pas cette maltraitance sur les enfants, que ce soit ici en Suisse ou dans le monde. Les témoignages, évidemment, de tous ces jeunes qui ont accepté face caméra, de dire ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont vécu, ont beaucoup touché les gens. Et donc, on était dans une journée très, très émouvante. Je sais que chez nos collègues, ça a été le cas aussi en Suisse alémanique, par exemple. Également, quand on parle de l'international. Et puis, ce chiffre qu'on a donné, qui a beaucoup touché les gens, hein, toutes les 4 minutes, un enfant meurt dans le monde victime d'un acte de violence. Et puis, chez nous, il y a 50 000 enfants qui souffrent de violences physiques, psychiques, de négligence, d'abus ou autres souffrances.
Alors, on a parlé de ce don, pourquoi on donne, où donner, Jean-Marc Richard.
Alors, jusqu'à 19h, le standard chez nous est ouvert. Après, vous allez peut-être tomber sur nos collègues alémaniques, tessinois ou romanches. C'est sympa aussi hein, de maîtriser les langues. Et puis, de toute façon, il y a un backup avec des francophones. Mais c'est le 0800 87 0707, 0800 87 0707. Et puis, en tout temps, coeur-rts.ch ou bonheur.ch, comme vous louez, si vous préférez le bonheur ou le cœur ou les deux à la fois.
Merci beaucoup Jean-Marc Richard de nous avoir parlé de cette journée exceptionnelle pour la lutte contre la maltraitance des enfants. Bonne soirée à vous.
À vous aussi.
Et bonsoir Jean-Didier Revoin.
Bonsoir. Vous êtes notre correspondant à Moscou. Vous sortez, vous, d'une conférence de presse marathon de plus de 4 heures, celle du chef de l'État, Vladimir Poutine. Une rencontre avec la presse qui a lieu chaque année. Cette fois, le président russe s'est montré moins véhément, on va le dire, que d'habitude. Il s'est même positionné en père de famille. C'est une forme de nouveau visage pour lui.
Alors écoutez, c'est toujours posé en protecteur de la nation, en tout cas face à un Occident devenu hostile au fil des ans depuis la fin de la guerre froide. Mais lorsqu'en fin de conférence de presse, on lui a demandé ce que signifiait pour lui, pour la Russie, eh bien Vladimir Poutine a répondu « une famille ». Et dès lors, son ton plus posé qu'à l'ordinaire, ses formules moins incisives et plus conciliantes, le fait de se vouloir rassurant sur l'état de l'économie, ont pris une autre dimension, celle d'un père de la nation qui se veut rassurant en dépit de l'inflation qui avoisine 9%, des problèmes économiques, des soldats qui meurent au front et qu'il faut célébrer en héros, autant de sacrifices qu'il estime nécessaires pour garantir l'indépendance et la souveraineté de la Russie.
Alors, pendant ces 4 heures et quelques de conférences de presse, Vladimir Poutine a aussi parlé de l'Ukraine. Est-ce qu'il y a aussi un changement de ton là sur cette guerre ?
Non, et on pourrait même parler d'un durcissement à une journaliste qui lui demandait s'il trouvait toujours que sa décision était la bonne. Vladimir Poutine a été on ne peut plus clair.
Si on pouvait revenir en arrière,
vous savez, s'il était possible d'observer la situation, bien sûr, en sachant ce qui se passe maintenant, à quoi aurais-je pensé en 2022 ? La décision qui a été prise début 2022, il aurait fallu la prendre plus tôt.
Alors c'est l'occasion pour lui de souligner la nécessité d'une paix avec garantie de sécurité et non pas de cesser le feu. Il en a profité pour rappeler que contrairement à Kiev, Moscou était prêt à négocier et il a donné plusieurs exemples d'accords refusés par Kiev, un projet d'accord pour la navigation en mer Noire auquel Kiev n'a pas donné suite et puis une trêve de Noël proposée par Viktor Orban que l'Ukraine a rejeté également, sans parler du projet d'arrêt des hostilités au printemps 2022 négocié à Istanbul en Turquie, qui reste à ce jour la seule base de négociation acceptée par Moscou.
Jean-Didier, dans un instant, on va parler de la Syrie. Bachar el-Assad, l'ancien tyran de ce pays, a été accueilli en Russie. Est-ce que Vladimir Poutine l'a rencontré ?
Alors, non, pas encore, mais il a concédé qu'il le verrait. L'occasion aussi pour le président russe d'affirmer que Moscou avait atteint ses objectifs en Syrie et d'aborder la question de ses bases militaires. Il a reconnu qu'il n'était pas sûr que la Russie les conserverait, mais a suggéré leur utilisation pour acheminer de l'aide humanitaire dans le pays, un geste en faveur du nouveau pouvoir syrien, dont il a par ailleurs dit qu'il partageait les vues sur le respect de l'intégrité territoriale du pays.
Jean-Didier Revoit en direct de Moscou. Merci à vous, bonne soirée.
Et la Syrie, on a dit qu'on en parlait. Eh bien, on va en parler tout de suite avec vous, Garance Le Cain. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendante, spécialiste du monde arabe. Vous revenez tout juste de Damas. Vous êtes arrivée à Beyrouth, d'où vous nous parlez. Quand on vous a jointe par téléphone, Garance Le Cain, vous avez utilisé ce mot pour décrire ce que vous avez vu à Damas. Vertigineux. Pourquoi ?
Ben c'est vertigineux parce qu'en fait, on savait, enfin, ça a été extrêmement bien documenté par les Syriens, ce que le régime avait commis envers les régimes, ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre. Mais en fait, c'était même pas ce qu'on imaginait. Enfin, là, les prisons se sont ouvertes, les fosses communes sont répertoriées, et on se rend compte à quel point c'était une tyrannie, à quel point. C'est difficile en fait de trouver un mot pour définir ce régime. C'est quand j'emploie effectivement le mot de vertigineux, c'est qu'on le pays a été tellement détruit qu'on se demande comment les Syriens vont faire, comment ils vont réussir à rebâtir un système judiciaire correct, enfin un vrai système judiciaire, comment ils vont réussir à se réconcilier, comment, enfin il y a tellement de choses à faire pour rebâtir son pays que oui, ça.
Garance Le Cain, vous êtes toujours avec nous, on l'espère que la ligne tient avec Beyrouth. En 2015, vous avez publié un livre documentaire sur les atrocités commises dans les prisons du régime de Bachar el-Assad en Syrie, ça s'appelle Opération César, en référence à cet ancien photographe de la police militaire syrienne qui a révélé les exactions commises avec ces images. Aujourd'hui, tout ce que César avait révélé sort au grand jour, c'est la population qui découvre tout ça.
Alors, la population ne découvre pas tout ça. Elle savait. Enfin, on savait tous quand même. La communauté internationale savez. On est étonné de voir ces gens qui sortent des prisons comme si ce que j'appelais le pays des absents revient à la surface et sort de l'ombre, de l'obscurité, des cachots. Mais ça a été extrêmement bien documenté par les Syriens. Donc là, on a l'impression qu'on découvre, mais ce n'est pas une découverte. L'ampleur est une découverte et le choc de le découvrir. Mais cela avait été documenté et César, enfin les 27 000 photos de 6 700 et quelques détenus affamés, morts de maladies non soignées, morts sous les coups de la torture qu'il avait été obligé de photographier. Ces photos sont sorties dans le monde entier en 2014. Donc on savait en fait, hein, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de l'avoir face à soi. Et ce qui est aussi extrêmement douloureux en ce moment en Syrie et à Damas, et dans toute la Syrie, c'est la sortie, c'est la libération de ces détenus qui a été un moment d'un fol espoir pour les familles, parce qu'on estime à 100 000 ou 200 000 hein, les Syriens qui ont disparu. On n'a même pas le nombre exact. Donc au moment de la chute du régime, il y a ce fol espoir des familles, et puis cet espoir retombe d'un coup quand toutes les prisons ont été ouvertes, tous les centres de détention ont été ouverts, et qu'il n'y a plus personne à sortir. Donc en fait, vous avez des dizaines de milliers de familles qui attendent toujours leurs proches et qui savent en fait que leur proche ne va plus jamais revenir. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils vont sur des lieux de fosses communes qui ne peuvent pas être ouvertes encore aujourd'hui parce que les Syriens n'en ont pas les moyens. C'est gigantesque en fait tout ce qu'ils doivent faire pour collecter ces preuves, pour préserver ces preuves, pour ouvrir ces fosses communes. Donc ces familles ont eu ce fol espoir le dimanche quand le régime est tombé. Ça a duré quelques jours. Et puis maintenant, les familles dont les proches ne sont pas sortis savent que leur proche est décédé. Pardon. Et ça, c'est à nouveau une douleur incommensurable parce qu'un disparu, c'est quelque chose de... C'est comme si vous avez un trou dans votre famille, un trou dans la mémoire familiale qui est transmise. C'est un manque, en fait. Mmh. Et vous ne savez pas comment votre proche est disparu, vous ne savez pas où il est enterré. Et si vous savez qu'il est mort par différents canaux, vous n'avez pas leur corps, vous n'avez pas son corps. Donc, d'où cette question maintenant des fosses communes qu'on trouve sur tout le territoire, en fait.
Ouais, vous parlez de ces fosses communes, vous les avez vues, vous avez vu ces familles se rendre tout près de ces fosses communes. Se pose aujourd'hui la question de la justice avec ces nouveaux maîtres de Damas qui s'installent, ces anciens fonctionnaires du régime de Bachar el-Assad qui sont encore, on l'imagine, dans la ville peut-être, des envies de vengeance, de vendetta dans certains cas. Or, tout semble se passer dans un calme un peu étrange, en tout cas vu d'ici, vu de Suisse. Comment vous avez vécu ça, vous?
Alors, ça peut paraître étrange, mais en fait, il ne faut pas imaginer que ce qui se passe aujourd'hui, ça a démarré le dimanche de la chute du régime. Depuis 2011, les Syriens se sont pris en main, ils ont, comme je vous l'ai dit, documenté, mais ils se sont organisés aussi quand il y avait cette révolution pacifique, quand il y avait cette guerre. Il y a eu des organisations locales qui ont fait qu'en fait, les Syriens ont appris aussi la démocratie, même s'ils ont été finalement battus par Bachar el-Assad. Et aujourd'hui, on voit ces anciens activistes ou militants revenir dans des villes dont ils avaient été chassés. Moi, j'en ai été témoin là ces derniers jours. Et en fait, ils veulent rebâtir une société civile. Et qu'est-ce qu'ils font? Là, je viens d'une ville, c'est absolument incroyable. Il y a deux membres des services de renseignement ou des gens qui trafiquaient de la drogue du Captagon avec le régime, qui sont dans une sorte de résidence surveillée, en attendant qu'un système judiciaire soit en place pour justement éviter la vengeance, éviter les exactions. Parce que c'est vrai que c'est extrêmement étonnant, il y a très peu d'exactions, très peu de vengeance depuis la chute du régime, mais certainement parce qu'il y a une sorte de maturité des Syriens et que le régime ne tombe. On peut croire que le régime tombe et que c'est le vide, mais en fait, il y a eu comme des racines d'une société civile à un moment, et en fait, ces pousses sont en train de revenir, enfin ces gens reviennent et essayent de bâtir à nouveau cette société civile. Et je pense que ça vient de là en fait. C'est difficile à expliquer, mais mon explication c'est que ça vient de là. Il y a au sein de la société civile syrienne il y a eu déjà des pousses de démocratie et une volonté de se gérer eux-mêmes, de gérer une société civile. Et il y a cette mémoire de ce qui s'est passé pendant la Révolution.
Eh bien, c'est justement un peu la question qu'on pose à tous nos invités, Garance Le Cain, une Syrie démocratique. C'est imaginable, selon vous, vu le profil hein, aussi islamiste des nouveaux maîtres de Damas?
Alors, ce n'est pas imaginable pour différentes raisons. D'abord, Ahmed Al-Shaari, donc anciennement Joulani, c'est effectivement un islamiste radical. Il est pragmatique. On le dit, c'est une bête politique en fait. C'est vraiment un homme politique qui a dû modifier sa façon de gérer la région qu'il gérait du côté d'Idlib. Enfin, il a dû prendre en compte les demandes de la population. Alors, c'est pas un grand démocrate, on est d'accord. Il a emprisonné des opposants politiques, on est d'accord. Mais il a extrêmement évolué depuis une dizaine d'années. Et on pense qu'il va devoir à nouveau évoluer. Son principal souci, c'est qu'il est dans une coalition où il y a des plus radicaux que lui. Donc, ce qu'il fait, c'est pas simple. Et puis, les Syriens ont réussi à faire tomber, Bachar al-Assad. Donc, Ahmed al-Shaari, donc, anciennement Joulani, le sait, ça. Donc, il ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, on ne sait absolument pas ce qui va se passer.
Et on gardera cela de loin ici de Suisse. Vous irez peut-être, vous retournerez peut-être aussi en Syrie pour voir ce qui se passe. Garance Le Cain, merci d'être venue parler de ce que vous avez vu là-bas sur le terrain. Vous êtes journaliste indépendante, spécialiste du monde arabe. Bonne soirée à vous.
Merci, au revoir.
Et voici la météo.
Demain, encore quelques chutes de neige le long du versant nord des Alpes et sur le reste du pays. Amélioration et passage à un temps assez ensoleillé, minimum 1 degré, maximum 4.
Infotrafic RTS avec Pure Audio.
À vous dire que le réseau routier d'altitude est généralement enneigé en raison de ces conditions de circulation difficiles. Les axes du Grand Saint-Bernard et du Simplon sont interdits aux trains routiers et aux semi-remorques.
Et voilà, c'est la fin de cette édition de Forum. On remercie à la technique Damien Barrière, Sylvain Michel, Mathieu Balmer et Brian Lani, à l'édition et à la production Coralie Claude, Jonah Dubois et Benjamin Pavelec. Excellente soirée à toutes et à tous.